Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Je me réjouis, chers frères et sœurs, de vous voir si nombreux pour ce dimanche de rentrée. C'est toujours un plaisir pour le prêtre, mais plus encore pour le ciel, de voir une église bien remplie. Alors, en cette période de rentrée scolaire et de reprise des activités habituelles pour beaucoup, la liturgie de la parole nous propose un évangile particulièrement apte à nous réveiller du train-train quotidien. Un évangile radical, radical, adressé aux grandes foules qui faisaient route avec Jésus. Il faut donc traduire, adressé aujourd'hui à tous les chrétiens, quels qu'ils soient, à tous les chrétiens. Et la question centrale de l'enseignement de Jésus aujourd'hui dans l'Évangile est la suivante. Être disciple du Christ ou ne pas l'être? À deux reprises, Jésus nous parle ainsi. Vous ne pouvez pas être mes disciples si vous ne faites pas telle chose, si vous n'adoptez pas telle attitude. Réécoutons l'une après l'autre ces sentences choc. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. C'est qu'il y a un lien entre ces deux exigences. La première exigence nous demande de mettre l'amour du Christ au-dessus de l'amour pour notre famille et même pour notre propre vie. La seconde exigence nous demande de renoncer aux biens matériels. Alors Jésus ne pousserait-il pas le bouchon un peu trop loin? Les liens familiaux, notre vie, nos propriétés ou possessions ont en commun cette qualité d'être des biens dans notre vie, donc des réalités positives. Pour l'homme matériel, qui vit selon la chair, pour reprendre les expressions de saint Paul, ces biens deviennent des biens suprêmes, pour lesquels il est prêt à tout, même au pire. Mais pour l'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme, toujours selon saint Paul, qui vit selon l'esprit, ces biens familiaux, matériels, ne sont que des biens relatifs, en comparaison d'un bien absolu, suprême, qui est Dieu lui-même. Dieu qui s'offre lui-même aux croyants, qui se donne, qui s'offre et qui aimerait être accueilli. Car l'autre nom du don, c'est l'accueil. Tant qu'il n'y a pas accueil, il n'y a pas don. Il y a intention de don, mais il n'y a pas encore le don réel. Dieu seul est le bien suprême. Dieu seul est parfait, est bon. Et c'est pour cela que Jésus nous demande de hiérarchiser nos affections. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi, dit Jésus, ne peut pas être mon disciple. Ici, ce que Jésus nous demande là est véritablement crucifiant. Au-delà même de nos perspectives humaines raisonnables, au-delà de nos forces et de notre bonne volonté, pourquoi tant de radicalité dans cet enseignement? Pourquoi mettre la barre si haut pour ceux qui veulent devenir ses disciples? Ne serait-ce pas au final décourageant? Et on pourrait se rappeler cette parole de sainte Thérèse d'Avila, « Seigneur, je comprends que tu aies si peu d'amis si tu es aussi exigeant envers eux. » Et à ceux qui disent « Nos églises sont vides », on pourrait leur dire « Nos églises sont vides parce que le Seigneur est exigeant. » Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez accueillir Jésus au-delà de ses exigences. Nous devons donc comprendre que si le Seigneur nous demande de hiérarchiser nos affections, c'est parce que les biens matériels, familiaux, peuvent devenir de véritables obstacles sur notre chemin de sainteté. Les biens humains peuvent devenir des obstacles si nous les absolutisons, si nous oublions qu'ils sont éphémères, fragiles, si nous prenons, grosso modo, les moyens pour la fin. L'argent, par exemple, n'est pas une fin en soi, il est un moyen. À l'heure du dîner, on voit bien que cet enseignement de Jésus, du reste, vient tout de suite après une parabole sur le royaume de Dieu, une parabole où Jésus nous dit... Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, le repas est prêt. » Mais tous se dérobèrent et se mirent à s'excuser de la même façon. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, je t'en prie, excuse-moi. » Un autre avait dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième avait dit « Je viens de me marier, pour cette raison je ne peux pas venir, excuse-moi. » Alors le lien semble évident avec notre évangile, car dans cette parabole, l'attachement à des biens matériels, un champ, des bœufs, ou à des biens familiaux, le mariage, constitue un obstacle dans la réponse positive que les invités doivent donner à Dieu. Comme tout enseignement biblique, nous devons aussi le recevoir cet enseignement de Jésus avec sérieux et dans son contexte, car Dieu ne peut pas se contredire. Préférer l'amour de Jésus à l'amour de sa famille ne signifie certainement pas abandonner ou mépriser ses proches. À la suite du commandement de Dieu, le quatrième, qui nous demande d'honorer nos parents, saint Paul n'hésite pas à dire « Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout des plus proches, il a déjà renié sa foi, il est pire qu'un incroyant. » Alors cela n'enlève rien au fait également que dans certaines circonstances, sans aucun doute douloureuses, des enfants devront déplaire ou même faire de la peine à leurs parents pour être fidèles à la volonté de Dieu sur eux. Par exemple, si Jésus m'appelle à lui consacrer ma vie en tant que prêtre ou religieux, et si mes parents s'opposent à cet appel, eh bien je dois préférer l'appel du Christ à la vie de mes parents, parce que Jésus ne peut pas se tromper ni nous tromper. Tandis que mes parents, eux, le peuvent. Si donc je préfère l'appel du Christ à l'appel de mes parents, ce n'est pas parce que je n'aime pas mes parents, c'est simplement parce que je sais de manière absolue, où est mon bonheur? C'est cela, préférer Jésus, par exemple, à ses parents. Vous savez, le pape François, quand il était tout jeune et qu'il voulait devenir prêtre, s'est heurté à l'hostilité de sa mère. Mais une hostilité, croyez-moi, assez grande. Sa mère piquait des colères et lui disait, mais tu te rends pas compte, tu veux devenir prêtre, mais cela signifie que tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas avoir d'enfants et tu vas finir ta vie tout seul. Et quand même, ce jeune homme, Bergoglio, là, ben, il a continué son petit bonhomme de chemin. Il a trouvé la joie, il a trouvé de nouvelles relations et maintenant il est pape. Et s'il avait écouté sa mère, eh bien nous n'aurions pas le pape François aujourd'hui. Alors je vais vous donner un autre exemple où il faut préférer l'appel du Christ aux biens familiaux. Alors je m'attends sans doute, parce que j'ai déjà fait allusion, à prendre une volée de bois vert. Ça m'est déjà arrivé. Mais quand même, il faut que je vous le dise, parce que je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, je suis là pour vous dire la parole de Dieu, ce que Jésus attend de vous, au risque et péril. Autre exemple donc. Si le dimanche, ça m'est déjà arrivé, un couple de retraités reçoit leurs enfants un dimanche, et à ce moment-là, ils se disent, oh ben, on a nos enfants, alors on ne va pas aller à la messe, vous comprenez? On n'était pas à la messe dimanche dernier, monsieur le curé, parce que nous recevions nos enfants, et on a peur qu'en allant à la messe, eh bien, ils le prennent mal. On a peur qu'ils pensent qu'on leur fait la morale. Eh bien non, il ne faut pas avoir peur d'aller à la messe et ce n'est pas faire la morale. C'est au contraire, décider de suivre jusqu'au bout l'appel du Christ pour pouvoir se ressourcer à son amour et ensuite, de retour chez soi, pouvoir le redonner aux autres. Si Jésus nous demande de le mettre au-dessus de tous, ce n'est pas pour écraser les autres, c'est pour qu'au contraire, abreuver à la source de son cœur, nous puissions ensuite élever le monde avec lui. Alors la petite histoire pour conclure de la tour à bâtir que nous avons entendue dans l'Évangile reprend quant à elle une sentence du livre de l'Ecclésiaste. Mener à bien une entreprise vaut mieux que la commencer, c'est la persévérance qui compte et non la prétention. Porter notre croix à la suite de Jésus, préférer l'appel de Jésus à l'appel de nos proches, ce n'est donc pas seulement poser des choix héroïques, c'est aussi et surtout persévérer dans notre amour de Dieu et du prochain à travers l'accomplissement fidèle et généreux de notre devoir d'État. Et c'est pour cela que dans la prière d'ouverture, nous avons demandé au Seigneur, enseigne-nous la vraie liberté, la liberté de préférer notre devoir d'État à tout autre. Et cette semaine, dès la sortie de la messe, chacun devrait pouvoir se demander où est mon devoir d'État, où est-ce que Dieu m'attend? Parce qu'entre telle chose bonne que j'ai à faire et telle autre chose bonne que j'ai à faire, j'ai une priorité à donner. Et la priorité doit aller vers ce qui constitue mon devoir d'État. Et chacun devrait se poser cette question, sinon mon homélie le dimanche, elle ne sert à rien. Si je suis juste là pour faire des palabres, ça ne sert à rien. Ce que je vous dis, vous devez vous l'approprier pour qu'en rentrant chez vous, vous puissiez aussi vous élever sur le chemin de la sainteté. Alors voilà un beau programme de rentrée pour tous. Voilà une ligne directrice que j'aimerais vous proposer pour cette année pastorale. Accomplir l'enseignement que nous avons reçu à travers la parole de Dieu et l'homélie. Programme irréalisable si nous ne mettons pas la prière personnelle, bien sûr, au cœur de nos journées. Programme idéal, utopique, bien sûr, si nous ne faisons pas l'expérience personnelle de la présence aimante de Dieu dans nos vies. Mais Dieu est présent, Dieu est là, il se donne à vous. Accueillez-le. Amen.